Bonjour à tous. Je suis très heureux de partager ces instants qui sentent le vécu. Je suis sûr d'une chose, c'est que à la fois il y a eu quelque chose qui était bien organisé, qui était voulu pour que ça apparaisse comme quelque chose de conscient et d'équilibré, mais en même temps la spontanéité qui permet des fois au sentiment d'exploser. Alors, vous avez un certain avantage, vous êtes resté à votre place. Vous avez pu compter les points, comme on dit. Vous avez pu dire, ah, c'est incroyable, ah, c'est curieux. Mais ne croyez pas que vous allez rester anonyme pendant le temps de cette réunion. Ces amis qui se sont engagés ont parlé d'une rencontre personnelle. Ils ont parlé d'un instant qui bouleverse. Et je voudrais partager avec vous quelques instants pour vous dire que vous pouvez, vous aussi, faire une rencontre personnelle. Pourtant, vous êtes au milieu et on ne va pas vous demander votre nom, votre prénom, votre âge. Mais je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous rencontrer d'une manière personnelle, sans même que celui qui est à côté de vous se rende compte. Et vous savez, la Bible est truffée de ce genre d'expérience. De gens qui un jour se sont trouvés confrontés à une rencontre, mais alors d'une intensité qu'ils n'avaient pas imaginée. J'aimerais en effet tout simplement vous parler d'un homme qui, moi, je l'aime beaucoup, il m'impressionne. Parce que manifestement, il est très moderne. Il a des besoins, il a une insatisfaction, il cherche et il se donne les moyens de tout mettre en œuvre. Tous ses efforts personnels, il les déploie. Je vais donc vous lire un passage que je trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans la Bible. Je le trouve au chapitre 8, et voici, c'est une histoire de voyage, je vous signale, hein, histoire de quelqu'un qui se déplaçait beaucoup, et qui, la vie l'emmenait d'un point à un autre, et il va être justement dans ce voyage interpellé. Au chapitre 8 des Actes des Apôtres, verset 26, nous allons aller, alors c'est un petit peu différent comme cadre de ce que vous êtes cet après-midi, puisque nous allons aller sur un chemin désert. Sur un chemin où là vous êtes tranquille, si vous y allez, vous allez entendre peut-être des oiseaux chanter, peut-être, et encore, s'il fait chaud, il n'y en aura même pas, les oiseaux se cachent quand il fait trop chaud, mais le chemin désert, celui où vous êtes là, vous pouvez penser, vous pouvez réfléchir, et puis vous tourner autour de vous et dire « qu'est-ce que je fais là ?» Voici ce que je lis. « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend » de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Je ne sais pas s'il y en avait un qui était très passager, mais l'ordre était clair, tu prends celui qui est désert. Hein. C'est celui où on ne trouve jamais personne. Je suis toujours impressionné quand Dieu vous envoie dans un endroit où il n'y a personne. Enfin, c'est comme ça. Hein. Encore que, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ? Ou de quelque autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Je m'arrête là. Vous voyez, c'est une tranche de vie. C'est un événement, ça se passe comme ça, sur un chemin qui ne prédispose pas à de grandes aventures, comme je l'ai fait remarquer, un chemin désert, il ne se passe pas grand-chose. Mais moi, cet homme, il me parle beaucoup. Cet eunuque, cet éthiopien, cet homme qui a des responsabilités, je ne pense pas qu'on confie les trésors d'une reine à quelqu'un d'incapable. Il faut savoir certainement au moins les compter, au moins les mettre en sûreté. Enfin bon, il y a quand même des responsabilités, c'est incontestable. Et puis c'est un homme comme les autres. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il a beau avoir beaucoup de responsabilités, il a beau avoir des fonctions, il a beau avoir un titre, il a un titre cet homme. Et la Bible nous dit qu'il était sur son char, mais ne fait pas d'illusion, un ministre ne voyageait pas tout seul. Il avait ses gardes, il avait tous ceux qui l'accompagnaient, il était là. Et c'était un homme de haut rang. Mais c'est un homme, avant tout. Un homme qui m'impressionne parce qu'il a une immense soif. Et ce qui lui arrive le trahit. Ce qui lui arrive le démontre. Il y a des textes, vous les lisez, puis vous dites, en y réfléchissant, vous dites, attendez, mais c'est pas possible cette histoire. Vous vous rendez compte, il est en Éthiopie. Il gère les trésors d'une reine. Il a de quoi s'occuper. Il vit normalement, il a tout ce qu'il lui faut. Et d'un seul coup, il va voir la reine, il lui dit, chère reine, je t'ai servi de tout mon cœur, mais il va falloir que je m'absente. Alors là, l'homme du 21e siècle, bien sûr, comprend le texte à sa manière. Oh, ben, il dit, c'est pas compliqué, il va prendre le TGV. Il va le prendre là, 2 heures après, vous savez, c'est facile, la gare de Montparnasse, 2 heures après, les jours où ça marche bien. Il va le prendre et 2 heures après, il est à Bordeaux, voilà, terminé. Mais ce n'est pas tout à fait cela le problème. Très loin de cela. On est loin de cela. Il va voir cette reine, il va lui dire, tu sais, je vais m'absenter pendant des mois. Oui, parce que vous pouvez toujours essayer, en char, même si vous relayez à un moment donné un bateau qui va longer la côte, peu importe, pour aller de l'Éthiopie à Jérusalem, mes amis, c'est long. Très long. Et c'est pour ça que je peux dire, sans connaître la teneur exacte, pendant des mois, cet homme va quitter sa fonction, son pays, et ceux qui lui ont fait confiance, donc il est honorablement connu, et il va dire, j'ai besoin de trouver quelque chose. On lui dit, mais pourquoi tu vas à Jérusalem ? Tu veux aller à Jérusalem ? Mais pourquoi tu vas à Jérusalem ? Il y a quand même des lieux plus près. Vous savez, quand on cherche quelque chose, des fois, on ne fait pas au plus simple. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est notre nature française qui est comme ça. Figurez-vous que lui, il déclare, je veux aller à Jérusalem. C'est quand même incroyable, cette histoire. Tu vas passer un temps comme ça de ta vie. En plus, on ne sait même pas si tu vas revenir, parce qu'il y a des risques. Je veux, il faut que j'y aille. Peut-être qu'on lui a posé la question. Mais pourquoi Jérusalem ? Alors cet homme dira, écoutez, c'est parce que là-bas, il y a quelque chose de particulier. Dans nos pays, vous savez qu'on a on a la foi, on croit, on a des religions dans mon pays. L'Éthiopie avait ses religions. Et puis sur la route de l'Éthiopie à Jérusalem, on passe par l'Égypte. Alors là, vous savez, on a ce qu'il faut au niveau de la croyance. Non, mais moi, je veux aller à Jérusalem parce que finalement, il y a quelque chose de bizarre. À Jérusalem, on m'a dit qu'on adorait, il y a un peuple qui adore un seul Dieu. Un seul. C'est curieux, ça n'existe pas ailleurs. Alors là, la curiosité, moi, je veux en avoir le cœur net, je voudrais aller voir. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que c'est contenu dans une seule phrase. Cet homme était venu à Jérusalem pour faire du tourisme. Et non, pour adorer. Une idée de divinité derrière. Une idée d'être supérieur. Une idée d'une rencontre qui élève. Adorer, c'est quand même pas le rat des pâquerettes, c'est quand on s'élève vers des hauteurs. Voilà le problème de la vie de cet homme. Je pense qu'il l'a traduit à sa manière. Il n'a pas hésité à faire le voyage. Il n'a pas hésité à se donner le mal. Vous savez, je ne m'inquiète pas trop pour cet auditoire. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a au moins une personne, peut-être plusieurs, mais il y en a peut-être une qui peut se dire, ah ben moi aussi, j'ai cherché beaucoup. Et s'il savait, celui qui parle, tout ce que j'ai cherché. Moi, je suis étonné, effaré même, par les récits de certaines vies que j'ai rencontrées et qui m'ont dit un petit peu ce qu'ils avaient cherché. Mais ils ont fait des histes pas possibles. Ils ont cherché des recettes extraordinaires et miraculeuses. Ils ont fait des régimes qui transforment l'existence. Enfin, ils ont fait des tas de choses que moi, j'ai jamais fait d'ailleurs, parce que je ne suis pas assez courageux. Je n'en ai jamais autant fait. C'est incroyable, parfois. L'être humain trahit sa soif. Et vous êtes peut-être de ceux qui, tout en passant inaperçu, trahissent une foi profonde, qui vous a fait faire mais des quantités de parcours, je dirais même de boucles. Parce que aller d'Éthiopie à Jérusalem et en revenir, c'est une belle boucle. Hein. Des boucles qui ont mis des années, des heures de difficultés, de recherche, de fatigue. Parce que sans savoir exactement, il y a quelque chose en vous qui vous dit « mais c'est pas possible, il y a sûrement quelque chose de meilleur que ce que tu as ». Il y a sûrement dans ta vie quelque chose de plus que tu pourrais ajouter. Et cet homme, moi je crois, il voulait ajouter quelque chose à son existence. Alors il partait pour Jérusalem, il y allait, il disait voilà, je me permets de transcrire un peu des choses qui ne sont pas écrites, mais certainement qu'il a dû se présenter, et moi je voudrais voir, je voudrais venir. Et il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est qu'il s'est approché de gens qui possédaient des parchemins de l'époque, des rouleaux. Il leur a dit, écoutez, je veux repartir avec quelque chose. On lui a dit, bah tiens, voilà, on a des rouleaux. C'est pas cher à l'époque, le livre, vous savez, un parchemin. Hein. Surtout que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le livre d'Ésaïe qu'il lit. Alors, si vous allez un jour à Jérusalem, au musée du livre, vous verrez, le parchemin d'Ésaïe fait 6 mètres et des poussières. C'est un immense livre, puis c'est un grand, grand livre. Quand on connaît le prix des parchemins de l'époque, je peux vous dire qu'il n'hésitait pas à mettre le prix. Hein. Moi, j'aurais peut-être cherché un livre plus court. Mais non, Ésaïe, dites donc. Si vous n'avez jamais lu la Bible, allez-y, commencez à lire Ésaïe, vous avez 66 chapitres de suite là, qui vont suivre, vous allez voir, ça ne se lit pas en 2 heures. Hein. Ben oui, mais parce que quand on a soif, on n'hésite pas. Ben oui, quand il y a un besoin pour connaître, et en plus, ben, il est venu pour adorer. Je ne sais pas comment s'est passée sa visite à Jérusalem, mais je ne vais pas essayer de dire ce qui n'existe pas. Là, je vous dis des choses qui sont évidentes. Il a trouvé un parchemin, il l'a acheté, et puis il repart avec. Et cet homme, il a hâte de découvrir. Moi, il me fait penser à ces gens qui ont acheté un livre à la gare de leur point de départ, la gare SNCF, vous savez, il y a des jours où ça marche aussi. Hein. Et puis, ils achètent le livre, ils montent dans le train et hop, ils commencent à le lire. Ah oui, parce que je ne l'ai pas acheté pour le lire quand je serai arrivé. J'ai vu des gens, j'ai trouvé des gens extraordinaires. Un jour, j'ai regardé une dame qui était en face de moi, elle avait un livre, elle a commencé à lire les premières pages. Puis d'un seul coup, je l'ai vu, elle a basculé, elle a été lire les dernières pages. Elle dit, je me suis dit ça, elle veut savoir comment ça finit. Cet homme, il avait en tout cas une soif profonde, parce qu'il est sur le chemin qui redescend de Jérusalem à Gaza, il n'est pas si loin de son point de départ, mais déjà il lit. Il est en train de se pencher avec, ouais, tout y est mes amis. Il veut, il cherche, il a un trou dans sa vie. Il lui manque quelque chose. Eh bien, je peux vous dire que on peut être. Alors, je m'adresse à ceux qui doivent être assez nombreux dans cette salle. On peut être ministre. S'il y en a, vous êtes concernés. Il y a des gens qui disent c'est pas pour eux. Non. Eh bien, si. S'il y avait un ministre cet après-midi, il est concerné. S'il y avait un député, s'il y avait. Non, il est concerné parce que c'est un homme et il a des besoins. Et puis, s'il y a monsieur tout le monde, il est aussi concerné. Alléluia. J'aime bien le dire. Ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Oui, vous êtes tous concernés. Parce que, voyez-vous, derrière cette histoire, il y a. Il y a le besoin d'un cœur humain. Il est, voilà, c'est pas possible. Bon, bien sûr, c'est facile de dire, mais non, on vit ici-bas, on est, on meurt, il n'y a plus rien après, terminé, tout s'arrête. J'ai entendu cet après-midi quelque chose qui m'intéressait. Beaucoup, plusieurs ont dit, moi, je suis venu aux réunions étant enfant, j'ai supporté les réunions, pas toujours des faciles. Vous savez que c'est pas toujours le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui viennent pas aux réunions du tout de leur enfance ni de leur adolescence. C'est mon cas. D'ailleurs, ils sont très fiers de cela. Parce que les copains, quand ils leur disent, vous allez voir, je date, le jour de congé, c'était le jeudi. à mon époque. C'était pas le mercredi. Et alors, les copains lui disent, demain, il faut encore que je vais me faire tirer les oreilles. J'ai pas appris mon caté. Le curé, qu'est-ce qui va me passer? Et tout. Et ben, moi, demain, je fais la grâce matinée. Et ouais, il y en a comme ça. Parce que j'ai pas fait de catéchisme. Parce que j'avais pas été marqué étant enfant d'une religion. Parce que j'étais pas plus marqué. Parce que tout ça, ça avait pas d'importance. Mais ben, figurez-vous que malgré tout, il y a un moment où on se pose des questions sur la vie. On dit, ça colle pas. On est, on meurt, ça s'arrête. Et s'il y avait autre chose? Et moi, c'est cette question que je voudrais laisser sur vos cœurs. Et s'il y avait plus grand que cela dans la vie que nous menons les uns et les autres? Parce que cet homme, il est en train de poser la question. Et s'il y avait quelque chose de plus grand? Alors, je vais voir cette religion si particulière qui parle d'un seul lieu. Il a raison dans un sens. Il a raison, mais je vais vous étonner. Il est aussi déçu. Il a acquis un ouvrage qui parle de ce Dieu unique. Il est en train de le lire. Et pourtant, par une simple phrase, il n'arrive pas à s'y retrouver. Il ne sait pas de quoi ça parle. Alors ça, c'est pire que tout, vous vous rendez compte? Vous venez d'Éthiopie, vous allez à Jérusalem, vous payez très cher, vous commencez à lire, vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai tout raté. Seulement, il y a une chose qui est formidable, qui se voit très nettement dans ce récit, c'est que pendant que cet homme cherche, lit, se pose des questions, il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui et il ne le sait même pas. Eh bien, ce quelqu'un qui s'intéresse à lui, ce n'est pas une religion, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible est très claire, c'est Dieu par son esprit qui a dit à quelqu'un qui savait d'ailleurs un peu de quoi il pouvait parler, et lui a dit, tu vas quitter le lieu où tu es. Pourtant, je vous assure, il était très occupé là où il était. Il avait du travail, il avait du succès, ça marchait bien. Dieu lui dit, non, non, tu t'arrêtes, tu laisses tomber, et tu vas sur un chemin désert. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Vous ne trouvez pas ça déprimant? Parce que Dieu ne lui a pas caché. Il dit, ne te trompe pas de chemin, hein. Tu vas du chemin de Jérusalem, hein, celui qui est désert. Tu vas être très bien là-bas. À la place de Philippe, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je leur dis, mais tu as vu le travail que j'ai? Dès que j'ouvre la bouche, il y a des gens qui viennent et qui veulent écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'en ai tant que je veux, il y en a de partout. Puis maintenant, tu m'envoies là où il n'y a personne. Ben oui. Parce que figurez-vous que pour une seule personne, il y avait un Dieu qui s'intéressait à cette seule personne. C'est ça tout le problème, c'est que cet après-midi, il y a un Dieu qui s'intéresse à quelqu'un au milieu de nous. Qui a cherché, oh là là, il pourrait en ajouter, il pourrait dire, si vous saviez, j'ai fait toutes sortes de religions, j'ai fait toutes sortes de philosophies, j'ai fait toutes sortes de relaxations, j'ai fait de la réflexologie, j'en ai fait, monsieur. Oui, mais il y a encore un besoin. Ce besoin, Dieu le connaît. Et Dieu, je me permets de vous tutoyer un instant, sans vous connaître, Dieu te cherche. Dieu te cherche. De la même manière qu'il cherchait ce ministre, de la même manière qu'il cherchait cet Éthiopien. Et personne ne s'était rendu compte de la situation de cet homme. Personne à Jérusalem n'avait essayé de le retenir en disant, attends, tu vas trop vite, tu repars déjà, il faudrait qu'on t'explique un peu les choses. Non, non, il était déjà parti. Ça y est, il tournait la page. Mais Dieu, lui, voulait le rencontrer. Il va envoyer un homme sur le chemin parce que la rencontre de Dieu avec cet homme est capital pour la suite. Et c'est exactement ce qui se passe cet après-midi. La rencontre de Dieu avec quelqu'un est capitale pour cette vie. Et elle peut décider de tout, et de la suite en particulier. Elle peut effacer des années de recherche. Elle peut, cette rencontre, effacer en un instant des années de doute, des années d'incertitude, des années de grands points d'interrogation. Et la question est d'autant plus incroyable de la part de Philippe, qui entendant et reconnaissant les textes qu'il connaît, lui, Philippe, le prophète Ésaïe, lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? J'apprécie l'honnêteté de cet homme. Il y en a qui auraient dit, ouais, bah bien sûr, tu me prends pour qui? Il dit, t'as vu ce que je suis? Mais cet homme va tout simplement répondre, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Si personne ne me conduit vers le sens profond de ce texte, je le lis, ça passe, et ça ne produit rien. Alors mes amis, je peux vous dire une chose, c'est que il y en a beaucoup parmi nous qui ont entendu la Bible et la parole de Dieu pendant des années. Nos amis, si j'ai bien compris, l'ont entendu pendant des réunions entières. Et pendant des années, la Bible, elle est passée, hop, avec un seul souhait, vivement que la réunion se termine. Et puis un jour, la Bible, elle est arrivée, elle n'est pas passée au-dessus. Elle a frappé directement. Elle a interpellé un cœur. Et ce jour-là, alors que nous sommes là en train de voir Philippe maintenant au contact de l'eunuque éthiopien, eh bien, cet homme lui dit, mais comment pourrais-je si quelqu'un me dit, alors, puisque tu as l'air de connaître, toi, tu viens de reconnaître que je lisais le prophète Ésaïe, bah monte, et puis tu vas m'en parler. Et il le fait monter, et alors Philippe va commencer à parler. Je trouve ça extraordinaire. La manière dont Dieu se met à votre portée sans que vous vous en rendiez compte. La manière dont Dieu s'est mis à ma portée sans que je m'en sois rendu compte. Vous savez, moi, Dieu s'est mis à ma portée parce que j'ai voulu prouver à ceux qui me parlaient de la Bible qu'ils avaient tort. Alors j'ai dit, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir, je vais la lire. Et je vais noter toutes les erreurs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je ne vous donne pas plus de détails. Comprends-tu ce que tu lis ? Alors il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage qu'il lit étant celui-ci. Alors j'aime beaucoup le passage. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Dans les 66 chapitres d'Ésaïe, il fallait quand même tomber sur ce passage. Parce que je vous invite à faire la même expérience. Vous prenez Ésaïe ce soir, chapitre 1er, verset 1er, et vous cherchez jusqu'à ce que vous arriviez à « Il a été mené à une, comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qu'il tond. Il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation, son jugement a été levé. » Ça veut dire que vous en serez au 53e chapitre d'Ésaïe, mes amis. Hein ? Ça fait un moment qu'il le lit, dites donc. Alors, surtout qu'il n'a pas de chapitre, lui, hein. Ils ne sont pas encore numérotés en versets, en chapitres. C'est un texte continu. Les lignes se suivent et s'enchaînent. Et lui, il en est là. Il a lu. Il a lu beaucoup de choses. Il est là. Il est là parce que Dieu le cherche. Il en est au bon moment de sa vie. Il en est au moment où Philippe va pouvoir lui dire, écoute, ne va pas plus loin. Avec ce que tu lis là, on a ce qu'il faut. Parce que figure-toi que je vais simplement te parler. Et j'aime beaucoup la façon dont Philippe aimait parler d'Ésaïe. En commençant par ce passage, il lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. C'est quand même extraordinaire de penser que la Bible peut être en la fois un immense livre, considérable, et qu'une chose est indispensable dans la Bible, c'est d'arriver à suivre ce qu'elle veut vous dire. Pour en arriver à ceci, la Bible, ça a été écrit pour vous parler d'une religion. Je me suis trompé ? Allez, dites-le, on est ensemble, on ne se gêne pas cet après-midi. Ben non, vous avez raison, la Bible a été écrite entièrement pour nous parler d'une personne, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que cet homme est bien tombé, il est arrivé au moment où Dieu le cherchait, vous savez. Alors, il y a les as des coïncidences, il y a des gens extraordinaires. Il crée même des théories de la coïncidence. Moi, ça me fait sourire, la coïncidence, hein. Parce qu'il y a des moments, je peux vous dire, que la manière dont Dieu cherche quelqu'un, dont Dieu s'est révélé à nos 5 amis, dont Dieu s'est révélé à beaucoup d'autres d'entre nous, eh bien, pour aller parler de la théorie de la coïncidence, vous repasserez. Moi, je dis qu'il y a plus que de la coïncidence, il y a l'amour de Dieu. Il y a un amour profond. Il y a un amour vrai. Et il est là en train de pouvoir maintenant se révéler. Parce que, à partir de ce que tu lis, je vais te parler de quelqu'un. Voyez-vous, il y a toute la différence entre la sincérité de la démarche de cet homme. Sincèrement, il s'est approché d'un lieu qui semblait l'émerveiller, parce que ça parlait d'une seule personne, un Dieu, un seul Dieu. C'était déjà un événement. Mais en même temps, sans le savoir, il s'est approché d'une religion. Et la religion, elle lui a fait payer quelque chose, mais il est reparti. Il n'était pas encore satisfait. Je dois vous dire, autant ça peut vous étonner, je ne vous invite pas à une religion cet après-midi. Même la grande religion iste, évangélique, pentecôtiste, tout ce que... non, je vous invite pas à une religion. Parce que c'est pas une religion qui peut changer une vie. Soyons clairs, c'est une personne. Et cet homme avait besoin de passer de la recherche du système, de religieux ou autre, à la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà. Il commençait, sans le savoir, à s'approcher de lui. Il lui fallait un éclairage direct et personnel. Et je crois que Philippe était l'homme capable de pouvoir lui dire, tu sais, ce Jésus, je le connais, moi aussi je l'ai rencontré, mais il veut te rencontrer. Il s'est passé une conversation dont nous n'avons pas le détail, mais elle est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Parce que quelques temps plus tard, cet homme est capable de dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, il y a dû en avoir des explications. Et tu vois, celui qui est là, derrière ces paroles, derrière ce message prophétique, eh bien, il s'est révélé il y a peu de temps. Il est venu comme un homme humble, comme un serviteur, souffrant, humilié, mais il a donné sa vie sur une croix. Et c'est sur cette croix que nous avons compris qu'il était mort pour nos péchés. Et Philippe va le dire de tout son cœur, parce qu'il vient de le vivre, parce qu'il l'a partagé, comme nous le faisons, comme nos amis l'ont fait, avec leurs émotions et tout, et comme je le fais maintenant. Nous avons vécu une rencontre avec Jésus-Christ. Et on peut dire, ce que nous avons vécu, bah, c'est pour toi aussi. Bah oui, parce que c'est aussi celui qui est mort pour tous les hommes. Et alors, il y a même quelque chose d'extraordinaire, c'est quand il était venu à Jérusalem, cet homme, on lui avait dit, écoute, tu es éthiopien, alors tu peux t'approcher de Dieu, mais jusqu'à un certain niveau, sur un parvis du temple. Et là, il avait trouvé un beau panneau, à ceux qui ne sont pas juifs, il est interdit d'aller plus loin. Ah. Donc il s'était approché, mais il y avait une limite. Et maintenant, Philippe est en train de lui dire, il n'y a plus de limite. Ce Jésus que j'ai rencontré, tu peux le rencontrer comme moi. Il est mort pour tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur condition, quelle que soit leur éducation, quelle que soit leur culture, il est mort pour tous. Vous vous rendez compte? C'est toujours assez extraordinaire, c'est un petit peu la tranquille assurance d'un prédicateur de l'Évangile. Il se dit, voyons voir, là dans cette église et dans cette salle cet après-midi, Dieu aime tout le monde. Et je suis sûr de ne pas me tromper, dites donc. C'est pas tous les jours, hein? Dieu aime tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà, je ne peux pas me tromper. Vous savez, c'est comme l'histoire de ces hommes qui étaient un jour sur un bateau, qui est passé par une tempête, le bateau a coulé, bref, mais Dieu avait donné une promesse à l'un d'entre eux, il lui avait dit, t'inquiète pas, je vais veiller sur tous les hommes et il ne s'en perdra pas un seul. Alors moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est quand le bateau a coulé et que les autres sont arrivés tant bien que mal sur le rivage en nageant, la première chose qu'on a compté, c'est on a compté le nombre qui arrivait. Et on a compté 150, 151, 152, on a été à 200, 270, il y en avait du monde. Et alors, j'imagine la situation. Si, tiens, je vais vous dire un autre chiffre. Si, admettons, il y avait eu 553 personnes, c'est pas le chiffre, hein, et qu'à un moment donné, on serait 550, 551, 552, il y en a plus, c'est le dernier. On aurait dit, tu vois, il y en a un perdu. Et bien, ce jour-là, figurez-vous, mes amis, qu'on a compté, il n'en manquait pas un. Tous ont été sauvés. Alors, c'est une image, ils ont été sauvés de la tempête. Mais c'est la même situation cet après-midi. Tous peuvent être sauvés en Jésus-Christ. Et il y a une part pour tout le monde. Moi, mais oui, toi. Toi qui peux essayer d'invoquer toutes sortes de situations de la vie en disant, ouais, mais moi, si vous saviez tout ce que j'ai subi, vous pouvez parler, vous, du haut de l'estrade, mais si vous saviez comment on m'a traité, comment on se moque de moi, eh bien, malgré tout, je peux vous le dire, Dieu vous aime. Et vous êtes ceux qu'il veut sauver. Il y a non seulement l'attitude de cet homme et l'attitude de Dieu, mais il y a quelque chose qui est assez extraordinaire. On lui explique la bonne nouvelle de Jésus. Il commence à prendre conscience qu'il y a un homme extraordinaire qui vraiment a tout accompli pour lui à sa place. Et puis il comprend. Et au passage, il y a des choses qui lui ont dû être dites, mais dont on ne le sait pas. Mais on le comprend dans le récit. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, verset 36. Et à ce moment-là, l'Éthiopien dit à Philippe, dis donc, il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On lui avait même parlé du baptême. Parce qu'on avait pu dire, tu sais, ce Jésus, nous l'avons suivi, nous l'avons rencontré, et il a dit, tiens, c'est ce que nos amis ont dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh, la première fois qu'on disait à cet homme éthiopien, il y a une possibilité d'être sauvé, d'être heureux, d'être épanoui. Et le signe qui avait été donné par cette personne, Jésus, c'était accepter l'engagement du baptême comme signe d'obéissance. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire, il avait déjà tout compris. On peut quand même reconnaître qu'il avait drôlement cherché cet homme, vous ne trouvez pas, hein? Et il a été plus vite que moi cet après-midi en quelques minutes, et il est là maintenant. Et il dit, attends, tu m'as dit que Jésus était mort sur une croix pour tous les pécheurs, et qu'il était prêt à pardonner, et qu'il m'aimait, et qu'il avait donné ce signe, celui qui croira eh bien, qui acceptera le baptême, eh bien, il va être sauvé. Hey, stop, il y a de l'eau. Figurez-vous que sur le chemin désert qui va de Jérusalem à Gaza, il y a de l'eau qui vous suit tout le temps. Vous tournez, il n'y a qu'en Normandie que ça existe ce genre de choses, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas s'il y a des Normands, ils viendront me voir après. Hein. Mais il faut des régions un peu particulières pour trouver de l'eau en permanence. Si, ou alors il y a une solution, vous suivez le canal du Midi, hein, qui passe par Toulouse, effectivement. Alors là, vous le suivez pendant des kilomètres, vous avez de l'eau tant que vous voulez. Mais sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, mes amis, il n'y a pas de l'eau tous les 5 minutes. Et c'est d'ailleurs pour cette là que cet homme dit, hey, dis donc, stop, regarde, il y a de l'eau. Ça, c'est extraordinaire, il y a de l'eau. Il y a une occasion extraordinaire, elle est unique. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, moi? Ha! Eh, moi, dites, attends, j'ai bien compris ce que tu as dit. Vous voyez, si vous sentez que Dieu vous appelle, si vous sentez que Dieu vous aime, si vous sentez que c'est pas pour les autres seulement, mais pour vous et pour toi, mon ami en particulier, que Jésus est mort, il y a un moment donné où vous dites, attends, je laisse passer l'occasion ou pas? C'est une occasion unique. C'est une occasion extraordinaire. Et moi, j'apprécie la façon dont cet homme, c'est un homme moderne, il est pragmatique, il dit, il y a de l'eau, stop, on arrête le char, parce que si on continue, il n'y aura pas d'eau, et je vais avoir raté une occasion. Vous savez que c'est exactement la situation de cet après-midi. Cet après-midi, je ne vais pas vous dire qu'il y a le baptistère pour vous, non, ça y est, on l'a fermé, mais je vais vous dire, c'est l'occasion du salut, c'est le moment du salut, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ, et rien ne vous dit que cette occasion-là, si vous la laissez passer, elle ne sera pas longtemps avant de se reproduire. Alors, mes amis, c'est comme sur le chemin désert qui va vers Gaza. Aujourd'hui, Jésus est là. Aujourd'hui, Jésus est dans ce lieu. Oh, Jésus peut parler à votre cœur. Jésus est là pour vous rencontrer. Jésus est là pour te dire, mais mon ami, il n'y a pas que ceux qui sont au premier rang qui ont droit à la joie du salut. Toi aussi, je veux quelque chose pour toi. C'est l'occasion. Et vous vous retrouvez d'un seul coup comme un ministre, dites donc. C'est pas tous les jours. Un ministre qui dit, ah, stop. Moi, j'ai compris, c'est aujourd'hui ou jamais. Savez-vous que pour tous ceux qui sont sauvés cet après-midi, il y a eu un jour où ça a été aujourd'hui ou jamais. Et c'est ce qu'il va très clairement expliquer en disant, on s'arrête. Et Philippe lui dira, alors mon ami, dis-moi vraiment quel est ton cœur. Est-ce que tu crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu? Eh bien, il dira, oui, moi je crois. Et il sera baptisé. Alors, voyez-vous, il y a des occasions comme ça uniques de faire une expérience avec Dieu, et ça transforme votre vie. Parce que cet homme a été transformé du tout au tout. Il était parti chercher très loin, il était en train de passer à côté, et d'un seul coup, pour le rattraper, Jésus est venu en personne, au travers du message de Philippe, en personne, Jésus est venu le voir pour lui dire, « Je t'aime, je suis mort pour toi, et tout ministre que tu es, je suis prêt à changer ta vie. » Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cet homme. C'est que, étant passé par cet acte d'obéissance, ils sont sortis de l'eau et Dieu l'a privé. Et Dieu l'a privé de celui qui lui avait apporté une bonne nouvelle. Et hop, Philippe s'en va, l'esprit l'emmène. Et il se retrouve tout seul, alors il va se mettre à pleurer. Il va dire, oh, je suis malheureux, celui qui m'avait parlé de si bien, il n'est plus là. Non, il a tout compris. Philippe s'en va, mais Jésus reste. Et la Bible me dit, alors, joyeux, il repartit. C'est quand même extraordinaire. Il a été jusqu'en Éthiopie, il est revenu dans son pays. Il était toujours joyeux. Parce que figurez-vous, quand on rencontre Jésus une fois, il reste avec vous. Et il vous accompagne. Et il reste avec vous. La réunion se termine et on repart avec Jésus dans son cœur. La semaine de travail arrive et on est avec Jésus dans son cœur. C'est comme ça d'ailleurs que j'apprécie la rencontre que j'ai fait il y a 10 années avec Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est que du jour où je l'ai accepté, il est toujours resté là, dites donc. Et je vous dirai, je terminerai simplement pour cette image qui me parle beaucoup, qui m'a fait beaucoup de bien. Et à cette époque, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je travaillais et le lundi matin, il y avait une grande conversation. Alors, qu'est-ce que tu as fait le dimanche, toi? Alors, il y en a un qui a dit, moi, j'ai été au stade, j'ai vu l'équipe, elle a gagné, bon, très bien. Et un autre dit, moi, j'ai été à la pêche, à la ligne. Un autre dit, moi, je me suis éclaté, j'étais à la boîte de nuit. Bon, ils avaient tous quelque chose d'extraordinaire. Puis ça finissait toujours par arriver à mon tour. Dit, ben, moi, j'ai été à l'église le matin. Ah, ouais. Ah, ouais. Il y en a un qui me dit, t'as pas de chance. Vraiment. Je dis, non, mais j'ai été parce que j'avais envie d'y aller. Ah bon, ça existe? Ah ouais. Et après cette espèce de difficulté, tu t'es détendu l'après-midi. Alors figurez-vous qu'à ce moment-là, je disais, ben non, j'y suis retourné. Et je voyais ces visages attristés. Ton cas est désespéré. désespéré. Et il me disait, mais tu vois, nous, qu'est-ce qu'on s'est... On s'est éclaté, mais alors quelque chose de formidable. Et moi, un jour, le Seigneur m'a donné un peu, ça m'embêtait quand même. Je dis, mais ça se voit que vous êtes éclaté, vous êtes en morceaux le lundi matin. Alors que moi, dites donc, je suis venu en chantant et en sifflant. Ben ouais, quand on s'éclate, on ramasse les morceaux. C'est aussi simple que cela. Est-ce que vous voudriez que Jésus recale votre vie, là, il rassemble les morceaux? Est-ce que vous voudriez que Jésus reconstruise tout ça? Commence et continue. Parce que même si on s'en va tous chez soi ce soir, si vous recevez Jésus dans votre cœur, il restera avec vous. Et la joie de sa présence restera dans votre cœur. Vous l'avez compris un instant? Pour que quelqu'un saisisse le côté pratique de dire c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant l'heure du salut. C'était maintenant l'heure de la décision pour cet homme. C'était maintenant l'heure de la joie du salut. Et je voudrais prier avec vous en respectant votre situation. Je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit. Dieu la connaît. Dieu pourrait vous raconter votre vie, aussi bien les pages que vous avez oubliées que celles dont vous vous souvenez. Alors j'aimerais simplement dire, ami, si cet après-midi, tu veux utiliser le temps de Dieu pour ton salut, si tu veux ouvrir ton cœur, si tu veux dire oui, c'est le moment ou jamais d'accepter Jésus-Christ, eh bien je vais vous dire simplement, on va prier ensemble. On va prier pour vous, on va prier ensemble. Ceux qui connaissent vont prier en se baissant dans leur cœur et la tête, mais vous, vous allez vous élever vers Jésus. Et si quelqu'un veut de Jésus à cet instant, qu'il se lève à sa place et Jésus le connaît, il va vouloir le bénir, il va vouloir lui faire du bien. Voilà, Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui veulent aussi profiter de ce moment? Parce que Jésus est là extraordinairement pour vous. Dieu vous a vu. Je n'insisterai pas longtemps. Si quelqu'un d'autre, pendant que je prie, veut encore... Voilà, Dieu vous voit aussi maintenant. Si quelqu'un d'autre veut encore se lever, il pourra le faire. Parce que dites-vous bien une chose, c'est entre vous et Dieu que ça se passe. Dieu, Jésus-Christ est là. Et il veut remplir votre vie. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous donner l'espérance d'une vie nouvelle. Il veut cheminer avec vous. Il veut repartir avec vous. On va prier ensemble pour ses amis qui sont là devant le Seigneur. Seigneur, tu vois cet après-midi. Des âmes sont là, elles reconnaissent ce besoin d'une rencontre, comme nous l'avons un jour expérimenté. Et elles sont là parce que dans leur cœur, peut-être après des errances pas possibles, après des difficultés innommables, elles sont devant celui qui veut repartir avec elles et avec eux. Je te prie de bénir ses amis. Je te prie de les visiter en cet instant. Et toi, Jésus, viens dans ses cœurs. Et je te prie de les prendre tels qu'ils sont par la main, de les bénir. Notre passé est lourd, tu le pardonnes. Tu élèves la croix pour nous. Tu élèves ton sang pour nos pardons, notre pardon. Nous voulons te bénir parce que tu connais ses amis. Et tu veux leur faire du bien. Je te prie maintenant de les toucher, de les visiter en cet instant, et que la joie de Dieu entre dans leur cœur. Que la paix du pardon entre dans leur vie. Que la présence de Dieu commence à se manifester et continue avec chacun. Je te prie de cela, Seigneur, pour que en cet instant, en cette journée, de joie pour ceux qui se sont engagés, il y ait la joie de ceux qui reviennent vers toi. Et qui s'adresse à toi, peut-être pour la première fois. Merci de visiter ces amis, frères et sœurs, qui veulent entrer dans la foi. Bénis-les. Bénis-les aujourd'hui même, et pour l'instant, et pour l'avenir. Merci, Père, pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen.